Vous écoutez RTL. Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info.
RTL Matin, 7h18.
Le tournoi de Paris-Bercy, dernier grand tournoi de la saison, hein, avec les meilleurs joueurs du tennis mondial, débute donc aujourd'hui. Mais ce qui secoue le monde du tennis actuellement, ce ne sont pas les prouesses sportives, mais bien les cas de dopage. Et nous avons 3 minutes pour comprendre pourquoi le tennis n'est plus épargné par ce dopage, si tant est qu'il fût épargné un jour, bien entendu.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour Yves.
Vous êtes notre grande spécialiste du tennis au service des sports d'RTL. Ce que nous avions envie de comprendre ce matin, c'est comment fonctionne la lutte antidopage dans le tennis, enfin si elle existe, depuis toujours. Peu de cas majeurs ont été révélés, même si la suspension pour 15 mois de Maria Sharapova, ex numéro 1 mondial, a jeté un froid sur la planète tennis.
Alors j'ai presque envie de vous dire que le cas Sharapova, contrôlé positif au meldonium, vous savez ce médicament qui a fait scandale cette année chez les Russes, a permis à la Fédération internationale de tennis de dire, bah, vous voyez nous aussi on sait faire le ménage, car jusque-là cela concernait, que vous l'avez dit, des joueurs de seconde zone inconnus du grand public.
Alors il y a quand même eu en 2013 le cas Marin Cilic, hein, le croate bourreau des Français en demi-finale de la Coupe Davis.
Ouais, c'est vrai, mais sans la presse croate qui a eu vent de son contrôle positif un peu derrière les murs, hein, pas sûr que la Fédération internationale l'aurait révélé, car le dit contrôle datait du mois de mai et il n'a été mis à jour qu'en juillet. Au final, vous savez, l'ITF avait suspendu Cilic 9 mois en disant quand même qu'il avait ingéré ses substances par inadvertance, qu'à la base il n'avait nullement l'intention d'améliorer ses performances. Mmh. André Agassi lui-même racontait dans son autobiographie comment l'ATP, c'est l'organisme qui gère le circuit masculin, avait fermé les yeux sur son contrôle positif à la Crystal Meth, un stimulant, en 1997, l'une des pires saisons de sa carrière, pendant laquelle il était redescendu au-delà de la 100e place mondiale, avant de réaliser une année 98 extraordinaire, avec notamment sa victoire à Roland-Garros.
Alors la question qu'on se pose tous, pourquoi une telle omerta?
Il faut savoir que le tennis génère beaucoup d'argent, des sponsors, des contrats télé, alors un scandale lié au dopage, ce n'est pas une bonne pub. D'aucuns disent même que pour s'en prémunir, eh bien la Fédération internationale aurait masqué certains contrôles positifs, en blessure à rallonge, congé sabbatique, voire même en retraite anticipée. Et en 2010, par exemple, le retour à la compétition de la Belge Justine Hénin, après une première retraite de 2 ans, avait colporté son lot de rumeurs.
Alors, qu'en disent ou qu'en pensent les joueurs eux-mêmes?
Alors, les avis divergent. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, estime que la lutte antidopage est très bien menée dans le tennis. Alors que Roger Federer s'interroge, non sans humour hein, d'ailleurs. Il dit qu'il est toujours surpris après une finale, car il se demande où sont les contrôleurs. L'an passé, le Suisse a subi seulement 5 contrôles hors compétition. Pour l'homme aux 17 titres du Grand Chelem, il faut accentuer la lutte contre le dopage, et cela passe naturellement par plus de contrôles. Raphaël Nadal, qui a souvent été l'objet de suspicions, va même plus loin et demande que les résultats de chaque contrôle soient rendus publics. De son côté, eh bien, Fabrice Santoro, retraité des cours depuis 2010, avoue qu'il a eu des doutes, lui, tout au long de sa carrière.
Dans le vestiaire, on voit rien. Je dirais que là où c'est le plus palpable, c'est quand on est de l'autre côté du filet. Un être humain normalement constitué a 2 poumons, et quand on en joue un qui en a 4, c'est un peu agaçant.
Mais il y avait une... À la fin de votre carrière, vous avez eu une certaine frustration quand même par rapport à ça, de vous dire quel était vraiment mon classement?
Ouais, c'est drôle, c'est exactement la question que je me suis posée. Dans un monde idéal, on paye des bisounours, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi?
Et la Fédération française de tennis dans tout ça?
Eh bien, elle collabore activement avec l'Agence française de lutte contre le dopage. Comme de nombreuses fédérations sportives tricolores, elle verse un pécule à la FLD chaque année pour qu'elle puisse effectuer des contrôles inopinés sur les joueurs. C'est ainsi que l'an dernier, c'est assez drôle quand même, hein, pendant Bercy, les contrôleurs s'étaient présentés un matin au domicile de Nicolas Mahut dans l'ouest de Paris. Mais l'Angevin, qui devait jouer tôt ce jour-là, avait décidé la veille de dormir à côté du stade de Bercy. Et il avait oublié de changer sa localisation dans le fameux logiciel. La DAMS, oui. Vous savez, c'est la base informatique dans laquelle les sportifs de haut niveau doivent chaque jour donner une heure et un lieu où ils peuvent être contrôlés. Conséquence pour Nicolas Mahut, cela lui avait valu quand même ce qu'on appelle un no-show, et il faut savoir qu'au bout de 3, bah, c'est la suspension.
Merci Isabelle Langer. Moi je trouve étrange tous ces joueurs hein, qui estiment ne pas être assez contrôlés. Alors on retient en tout cas ce témoignage tout à fait étonnant qu'on vient d'entendre de Fabrice Santoro, et on leur souhaite néanmoins un très beau Bercy. Vous serez évidemment sur place Isabelle, sans dopage, puisqu'on pratique régulièrement des tests à RTL sur notre service des sports.